Ça va, je dois pas trop trop baisser quand même après Catherine. Ouais, les enfants, ils peuvent sortir, effectivement. N'oubliez pas de saluer le monsieur qui est avec son t-shirt bleu tout à l'heure, parce que c'est la dernière fois qu'il est avec nous. Benjamin. Alors, est-ce que vous savez de quoi je vais parler? La suite. Bah oui, la suite. La suite de l'épisode d'avant, qui était la suite de l'épisode d'avant. Qui est la suite de l'épisode d'avant. On en est au quatrième. La vérité, ça vous parle? Ouais. Alors, on a vu la première fois, on a parlé de Jean 14, si je ne me trompe pas, avec la vérité qui rassure. La vérité, c'est connaître Dieu. Et nous et la vérité, ou les signes de la vérité en nous. Et donc, je continue aujourd'hui avec rendre témoignage à la vérité. Alors, initialement, je voulais continuer dans Jean 8. Alors, je fais tout dans le désordre, hein, mais tant pis. Vous allez voir que c'est pire que ça. J'ai voulu commencer dans Jean 8. En fait, quand on lit Jean 8 au début, ça fait référence à Jean 5. Alors du coup, je dis tant pis, je repars dans Jean 5 et puis je repartirai sur Jean 8 après. Donc voilà, on fait tout dans le désordre, mais ça parle de vérité quand même. Donc, Jean 8, ça parlait de quoi? C'est Jésus qui parle aux pharisiens et il leur dit de nouveau « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Ils sont un peu brutales, hein. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que justement, en Jean 5, ils se sont disputés avec lui et Jésus leur a expliqué, oui, il y en a plein qui rendent témoignage, tout ça. Donc voilà, on va partir en Jean 5 parce que ça explique ce verset-là. Et puis bah, plus tard, on fera Jean 8. Hein. Comme ça, vous saurez, quand je vous dirai on parle de quoi, vous saurez, c'est la vérité, c'est Jean 8. Donc les pharisiens, ils parlent de Jésus, là, ils disent, ouais, tu rends témoignage de toi-même. Ils font référence à cette discussion qu'il y a en Jean 5. Donc, quand je me suis dit, on va voir Jean 5, bah forcément, pour voir Jean 5, il faut voir Jean 4. Bon, on ne verra pas Jean 4 en détail aujourd'hui. C'est juste que Jean 4, ça nous parle d'un officier du roi qui va voir Jésus pour son enfant et qui dit, viens, mon enfant, il est sur le point de mourir. D'accord? Et il dit, descends, texto, il dit, descends. Alors, je l'ai peut-être pris, hein, d'ailleurs. Voilà, parce que je ne l'ai pas écrit sur ma feuille, comme d'hab, mais je l'ai mis dans la diapo. Donc, Jésus va à Cana. Je vais vous le lire, ça va être plus simple, sinon ça va être embrouillé. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton enfant vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Ce qu'on voit là, en fait, dans la fin de Jean 4, dans ce passage-là, c'est que cet officier du roi, il croit sans rien avoir vu, en fait. Jésus lui dit, va, ton enfant y vit. Il voit rien du rien, il sent probablement rien, mais voilà, il fait confiance, il dit, bah ok, je crois. Et il rentre chez lui, et il constate bah, que son enfant vit, en fait, hein, qu'il est guéri. Mais... Et c'est cette phrase de Jésus hein, qui dit « Mais si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Il vous faut quelque chose pour croire. Hein. Vous êtes dur en fait. » Et étonnamment, c'est cet officier du roi, donc un Romain hein, très probablement, qui croit sans rien voir. Et c'est beau cette fois-là. Hein. Et on va parler du coup de croire et du témoignage qui est rendu, du témoignage qui est rendu à Jésus. Parce qu'en fait là, ce monsieur, il croit comme ça. Mais finalement... Jésus, il sait qu'on est un peu dur, un peu compliqué, et il apporte des témoignages autour de lui qui font qui nous aident à croire, en fait. Il ne nous demande pas toujours de croire sur parole sans rien avoir. On devrait être comme ça, je pense que c'est ça l'idéal, juste de le croire, simplement. Mais Jésus, il sait qu'on est humain, et du coup, il apporte des choses pour nous aider à croire. Par moment. Des fois, il nous demande juste de croire. Hein. Donc, au début du chapitre 5 de Jean, on va y arriver, hein. Versets 1 à 16, on a l'histoire du paralytique. Vous savez, le paralytique qui attend que l'eau bouge à la piscine de Bethesda. Et donc là, Jésus vient le voir, il dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'attends qu'un ange bouge l'eau, et puis pour plonger dedans, pour être guéri. Mais il y en a toujours un qui va plus vite que moi. Et Jésus, il dit, mais tu veux être guéri? Il répond, bah oui, et puis il est guéri. D'accord? Et là, bah, il y a encore problème avec les pharisiens. Les pharisiens, ils sont casse-pieds, mais grâce à eux, on a des enseignements de Jésus. Donc, c'est quand même positif, en fait. Donc, pourquoi ils râlent les pharisiens? Alors, ça, c'était la fin de l'histoire d'avant, voilà, pour faire les choses dans l'ordre. Jean 5, versets 16 à 18, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En fait, c'est ça qui provoque la colère des pharisiens. C'est déjà, le jour du sabbat, il fait des guérisons alors qu'on est censé ne rien faire. Hein, ils sont psychorigides. Et en plus, quand il leur répond, il dit « Mais mon Père, il agit, moi aussi j'agis ». Ça pourrait être ça aussi le titre du message, en fait. Hein. « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Et là, il se fait l'égal de Dieu. Alors, voilà, on va arriver au verset qui m'intéresse en Jean 5. Jean 5, versets 26 à 29. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je n'ai pas pris du tout les mêmes choses sur mon papier que sur mes diapos. Je pense que j'ai trifouillé mon papier après avoir fait les diapos. Jean 5, versets 26 à 29. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Ça, quand on a vu Jean 14, 6, on n'est pas étonné. Hein. « Et il lui a donné... » Alors, Jean 14, 6, c'est après, en fait. Hein. Mais bon, nous, on l'a vu avant. « Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Ne vous étonnez pas de cela, car le jour vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et Jésus continue un peu plus loin. Il leur dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et en fait, c'est ce passage-là en fait, qui m'a interpellé. Quand Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même », je dis « un peu bizarre quand même. » Alors, de quoi il parle? Alors, pourquoi je vous ai mis le passage d'avant? Parce qu'en fait, il parle de jugement à ce moment-là. Quand il dit « Je ne peux rien faire de moi-même », c'est qu'il nous explique qu'en fait, le jugement, il est lié au Père aussi. Ce n'est pas lui qui fait les choses. Lui est venu pour sauver, pas pour juger. Et c'est le Père qui juge. Donc, ce n'est pas Jésus qui s'occupe du jugement. Mais je crois que d'une manière générale, ça ne s'applique pas qu'au jugement, en fait. C'est assez étrange, mais régulièrement, Jésus, il a des formulations comme ça. « Je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux pas faire ci de moi-même, je ne fais pas ça de moi-même. » Alors je lui dis « Mince, il est bizarre, Jésus. » Ben, du coup, j'ai ma diapo que je n'ai pas affichée tout à l'heure. Voilà. Donc plus loin dans Jean, il fait référence à ça aussi, hein, quand il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Il a dit juste avant, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il y a un lien en fait entre toutes ces paroles de Jésus. Quand il dit « Je ne peux rien faire de moi-même », c'est parce qu'en fait c'est le Père qui fait les choses, et ce n'est pas lui. Même si physiquement c'est lui quand même. Mais finalement, ça représente un peu ce qui devrait se faire dans notre vie. Ce n'est pas nous qui devrions faire les choses. Alors c'est sûr que physiquement le Seigneur nous utilise, mais c'est le Père qui doit les faire au travers de nous. Et nous, on devrait rester sur cette règle-là, je pense, de « Je ne peux rien faire de moi-même ». Alors, vous allez me dire, c'est quand même bizarre de la part de Jésus. Hein. Il dit, je ne peux rien faire moi-même. Et Jésus, il était tout puissant. Il était Dieu, il pouvait tout faire ce qu'il voulait. Et je pense que ce blocage-là, il n'est pas dans une question de puissance, en fait. Il n'est pas dans une question de physiquement, il ne pouvait pas le faire. C'est juste que c'est une forme d'impossibilité mentale, d'impossibilité morale, spirituelle, en fait. Il était lié à Dieu, et donc il ne pouvait pas faire les choses sans Dieu. C'était forcément Dieu qui les faisait au travers de lui. Voyez, après, physiquement, il avait la puissance de faire tout ce qu'il voulait. Ce n'était pas impossible pour lui. Alors, ça me paraissait quand même un peu bizarre, cette histoire de Jésus qui ne peut pas faire de lui-même. Alors, du coup, j'ai refouillé quand même. Je ne vais pas vous faire une doctrine juste sur un verset. Hein, faut faire attention. Et donc, j'en ai trouvé d'autres. Oh, je fais tout dans le désordre. Bon, ça, on l'a lu. Désolé. Verset 11. Diapo 11 pour moi. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, 42, un peu plus loin finalement. Hein. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, il ne parle pas de lui-même, il ne fait rien de lui-même, il n'est pas venu de lui-même. C'est assez bizarre hein, de penser ça de Jésus, de dire « Mais mince, Jésus, il n'a rien fait de lui-même. » Mais on devrait en arriver là, en fait, dans notre vie. On va dire, c'est pas moi qui fais les choses. Vous savez, ce serviteur, à la fin, Dieu, il dit, voilà, le serviteur, il fait ci, il fait ça. Et puis, à la fin, il dit, bah, j'ai fait que mon devoir, en fait, j'ai rien fait. J'ai fait que ce qui était dans ma fonction, en fait, quelque part. Un peu plus loin, Jean 12, 49, je dis, c'est pas juste un verset qui dit ça. Hein. Jésus qui continue, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, fait lien avec avant, hein, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc il est complètement dépendant du Père, en fait. Quand il dit quelque chose, c'est parce que c'est le Père qui lui a enseigné, c'est le Père qui lui dit de le dire. Quand il va quelque part, c'est le Père qui l'envoie. Petit dernier pour la route. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça, on l'a lu la fois dernière, normalement. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez, c'est assez clair en fait. Hein. Et dans ces versets-là, il y a systématiquement mention du Père. Systématiquement, les quatre qu'on a vus là, c'est le Père. C'est le Père qui m'envoie, c'est le Père qui m'a enseigné, c'est le Père qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et là encore, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Donc c'est important pour nous d'avoir, je pense, cette première règle, je ne peux rien faire de moi-même. Et si on veut rendre témoignage à la vérité, si on veut être des témoins aux yeux du monde, on ne doit rien faire de nous-mêmes. On doit être conscient qu'on est incapable de le faire. On dit peut-être que physiquement, on sait le faire. Peut-être qu'intellectuellement, on sait le faire. Mais on doit se dire, Seigneur, je me rends complètement dépendant de toi. Et c'est toi qui le feras en moi. Moi, je suis capable de rien. Est-ce que ça concerne que Jésus? Ben non, il y a des versets aussi sur le Saint-Esprit. Si ça s'appliquait qu'à Jésus, ce serait bizarre, hein. Mais en fait, les trois sont pareils. Alors, on n'entend pas ça du Père, hein, on va couper tout de suite. Mais en Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il aura entendu de qui? Ben, du Père. On revient tout le temps au Père. Hein. Je ne vous refais pas le deuxième message de la série, hein, mais la vérité, c'est le Père. Et c'est connaître Dieu qui est la vérité. Donc tout revient au Père dans la parole, en fait. C'est systématique. Et dans les propos de Jésus, c'est absolument tout le temps, parce que c'était sa vie. Sa vie, c'était celle du Père. Alors si le Saint-Esprit, si Jésus, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, est-ce que nous, on peut avoir le droit de faire les choses de nous-mêmes? Ben non. On n'est quand même pas mieux qu'eux. On ne peut pas dire, bah ouais, mais eux, c'était spécial. Non, il nous a montré l'exemple, en fait. C'est la même chose pour nous. Alors, quand on a besoin d'un miracle, c'est facile. On dit, bah ouais, moi, je ne peux pas faire les miracles moi-même. Ah, j'attends que Dieu, il le fasse. Quand on attend une guérison, quand on attend tout un tas de choses, quand on veut être transformé, on sait très bien qu'on ne peut pas se transformer nous-mêmes. C'est Dieu qui doit le faire en nous. Mais il y a plein d'autres choses, plein de choses qui, du coup, sont possibles concrètement, physiquement, et on y va. Et on le fait, parce qu'en fait, on sait le faire. Et je crois que quand on sait le faire, on se trompe, on se plante et on fait mal. Parce que c'est Dieu qui doit le faire en nous. Même les petites choses, Jésus, il était entièrement soumis au Père. Et c'était le Père qui le faisait en lui. Pourtant, il savait le faire, c'était pas le problème. Alors, ça ne se limite pas, du coup, à Jésus et le Saint-Esprit. C'est pareil, on pourrait dire, ouais, mais c'est lié à eux. Bon, trouver une explication, peut-être. Ce serait tordu, je pense. Mais voilà. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6, c'est Paul qui parle du coup, qui dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes, vous voyez toujours ces mêmes mots, hein, par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables. On n'est capable de rien de nous-mêmes. Et il faut en arriver là pour que Dieu, lui, fasse le nécessaire et qu'il nous rende capables. L'Épître aux Hébreux. Alors, j'allais dire Paul dans l'Épître aux Hébreux, mais non, c'est peut-être pas lui, on ne sait pas. J'aimerais bien que ce soit Paul. On ne saura pas.
Pas tout de suite.
Hébreux 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, on retrouve notre pasteur, le berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le grand berger des brebis vous rende capable de toute bonne œuvre. De toute bonne œuvre. Ce n'est pas des grandes œuvres et que les petites, vous pouvez le faire vous-même. C'est toutes les œuvres qui vont être dépendantes du Père et que c'est lui qui le fait en nous. Alors comment il le fait, ça, Dieu? Comment il nous rend capable? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, en fait. Hein. Jésus est reparti, Dieu il est resté au ciel, et le seul qui est avec nous et qui nous transforme, qui est de l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Il vient en nous et c'est lui qui fait les choses. Et Jésus, il était rempli du Saint-Esprit aussi quand il était sur terre. Donc il faisait les choses de manière naturelle, en fait, pour Dieu. On va reprendre Jean 5, sinon on ne va pas avancer beaucoup. Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la suite, hein, on a vu juste les quelques premiers mots, mais ça nous donne une deuxième règle, je pense. On a dit, voilà, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est une bonne règle à avoir quand on est chrétien. Je ne fais rien de moi-même. Alors, il ne faut pas que ça devienne un empêchement à écouter la parole du Seigneur et à obéir. Parce que si le Seigneur nous dit, tu fais ça, il va donner la capacité de le faire. Donc voilà, ça veut dire qu'on ne reste pas à rien faire toute notre vie en disant, moi, je ne sais rien faire, je ne fais rien. Ça, c'est un truc des enfants, j'en profite, ils sont pas là. Tu fais ça, moi je sais pas faire. Ah non, tu ranges ça, hop, je sais pas où. Puis voilà, et ils se débinent comme ça en disant, moi je sais pas faire, je sais pas. On ne peut pas faire ça avec le Seigneur en fait. Hein. Parce que s'il nous demande de faire quelque chose, il donne le pouvoir de le faire, il donne la puissance de le faire. Donc voilà, c'est pas je tiens juste à donner cet avertissement, c'est pas une occasion pour ne rien faire et juste attendre. C'est ne faire que ce que le Père nous dit, que ce qui nous donne la capacité de faire. Deuxième idée, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors mon jugement est juste, on pourrait reformuler, mon jugement est impartial, ou mon jugement est objectif, ou il est vrai. Mon jugement, il est vrai. Et pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas sa volonté à lui, mais celle du Père. Et c'est les deux idées sont liées, en fait, hein, dans ce qu'il dit Jésus. On a cette deuxième règle de si je veux être dans la vérité, si je veux témoigner à la vérité, alors ce n'est pas ma volonté qu'il faut que je cherche, c'est celle du Père. Alors là aussi, hein, des fois c'est assez clair, on voit ce que le Seigneur nous demande, on fait et voilà, c'est facile. Des fois il nous demande à l'opposé de notre volonté. Quand c'est comme ça, les deux choses elles sont faciles à comprendre. Mais des fois on confond les deux un petit peu en fait. Hein. Le Seigneur il nous demande quelque chose et puis on fait légèrement à côté. Mais on ne fait pas ce qu'il nous demande en fait quand on fait légèrement à côté. Ça parle d'obéissance, en fait. Ça parle d'obéissance, ce passage. Il n'y a pas longtemps, j'ai été repris par le Seigneur un matin. J'ai raconté juste à Maï. J'allais au boulot comme tous les jours. Hein. Je sors de la gare, je vais à pied boulevard Vauban. Et en passant dans le Vieux-Lille, j'ai une dame un peu bizarre dans une rue sur le côté. Je passe, après des gens bizarres à Lille, il y en a plein. Hein, donc je ne fais pas plus attention que ça. Elle marmonne un truc, mais je ne comprends pas. Je continue à marcher. Et là, c'est comme si le Seigneur il me disait, mais tu vas aller la voir? Tu vas pas la laisser comme ça? Bon, je fais demi-tour, je vais la voir. Bonjour madame, elle parlait pas clairement, elle était en tongue dehors. Elle me dit, il faut que j'aille à une ville, je sais plus trop quoi, une rue, la rue Sofou, ou un truc comme ça. Rue Sofou, je connais pas du tout. Alors, en même temps, moi je connais juste entre la gare et mon lieu de travail quasiment. Hein. Je fais des allers-retours et je connais pas plus l'île que ça. Bon, je prends Google Maps, je cherche. Pas de rue Sofou à l'île, qu'est-ce qu'elle me dit? Je dis, mais vous allez où? Elle dit, la Bège. La Bège. Cherche la Bège, L-A, plus loin, B-E-I-G-E. Je connais rien de tout ça, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Puis d'un seul coup, je vois un truc, A-Bège, A-B-E-J. Ah, mais c'est ça que vous voulez? Elle dit, oui, c'est rue Solferino, pas au fou. Bon, elle parlait bizarre, elle était dans un état un peu bizarre, et bon, je dis, ah, vous voulez aller là-bas? Ah, bah, c'est pas compliqué. C'est à 2,5 km d'ici, madame. Alors, c'est compliqué de vous expliquer, mais bon, globalement, vous prenez là-bas, vous marchez 1 km et vous redemandez votre trajet, ça va être plus simple, en fait. Elle part, moi je repars, et puis là, le Seigneur, il fait, mais tu vas pas la laisser aller tout seul? Tu vas l'accompagner? Bon, bah, ouais, je vais l'accompagner, allez. Bon, je refais demi-tour, je la rattrape vite parce que je marche super vite, hein. Et ça me vaut la peine de me faire arrêter par les flics pour excès de vitesse à pied, des fois. Je vous raconterai un jour. Donc je la rejoins et puis on y va mais péniblement, elle marchait très lentement. Bon, allez, on arrive à la rue nationale, je dis bon ben voilà madame, là c'est facile, c'est tout droit, vous voyez les bâtiments là, et puis vous tournez à gauche et vous y êtes, il n'y a pas plus simple, d'accord? Ouais, je repars et puis Je l'entends déjà demander son chemin à quelqu'un d'autre, en fait. Il dit, bon, tout ça pour ça. Bon, là, au moins, rapproché. Puis, je repars assez rapidement, comme d'hab, et j'arrive assez loin, là, ce coup-ci. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais tu m'as encore désobéi. Quoi, Seigneur? Je fais demi-tour, je vais la voir, je l'accompagne. Je t'ai demandé de l'accompagner. Bah ouais, mais Seigneur, c'était à 2,5 km. Bah et alors? Tu dis pas à tout le monde que t'aimes bien marcher? Bah ouais, mais je dois être au boulot. Tu peux arriver à 9h30. Ouais, 7h15. J'ai un peu de marge de manœuvre. Bah ouais, mais je vais débiter je sais pas combien de temps sur mon temps de travail. Et alors? Tu dis aussi que t'as du temps en plus et que tu sais pas quoi en faire. Ouais, t'as raison. Bon, et si maintenant tu voyais dans le journal demain qu'elle est décédée, cette dame? Parce que tu l'as pas accompagnée. Et non, ouais, Seigneur, j'ai désobéi. Parce que l'ordre, il était de l'accompagner jusqu'au bout. Il n'était pas de faire un petit bout de chemin avec et puis tiens, débrouille-toi parce que t'es trop lente, parce que t'es ceci, parce que t'es cela. Et le Seigneur, il est pareil avec nous, il accompagne jusqu'au bout, même si on est trop lent, même si on est dur de compréhension. Il vient jusqu'au bout avec nous. Et c'est l'obéissance, on a un chemin à faire. On a un chemin sur l'obéissance. Pourquoi j'ai désobéi en fait? Parce que je cherchais ma volonté. Ma volonté, c'était de me dépêcher, de quitter cette dame, c'était d'aller au travail. Alors que c'est pas beaucoup plus plaisant au boulot des fois. Hein. Mais voilà, j'avais juste pas envie de l'accompagner jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je l'aimais pas assez probablement. Et quand le Seigneur me dit, mais tu te rends compte si demain elle se fait écraser en repartant, t'es responsable, tu l'as pas accompagnée jusqu'au bout, je te l'ai demandé. Alors quelque part, voilà, hein, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue cette dame, j'ai pas lu le journal le lendemain. Mais j'ai bien compris que j'avais désobéi quand même. Jésus dit, je cherche ma volonté. Je cherche, pardon, pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé me donne des consignes, je les applique jusqu'au bout, complètement. Pourquoi ça ne peut pas être ma volonté? Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est ma volonté, puis ma volonté, elle ressemble à celle du Père dans certains cas? Non, 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 non. C'est très clair, en fait, c'est ce que Manu a lu, ben, il est disparu, c'est ce que Manu a lu tout à l'heure, dans Galates 5, verset 17, il a lu tout le paragraphe, je vous relis juste le verset qui parle de ça. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est pour ça, en fait, qu'on est obligé d'obéir à la volonté de Dieu et pas à la nôtre. Parce que les deux volontés, elles sont à l'opposé l'une des deux. Je crois que c'est tout l'objectif de notre vie, en fait. Hein, c'est nous faire plier devant le Saint-Esprit, qu'on obéisse et qu'on applique à la lettre ce qu'il nous demande, comme Jésus, en fait. Et comment il le fait? Le Saint-Esprit, il nous montre, il regarde ça, tu fais pas. Ça, tu désobéis, je veux que la fois prochaine, t'obéisses. Et si je rencontre une dame comme ça la fois prochaine, j'irai jusqu'au bout cette fois-ci. J'espère que ce ne sera pas l'autre bout de l'île complètement, mais c'est tout. Le Seigneur, il nous prend au mot. Mais le Seigneur, il veut qu'on obéisse. Et si, quand on désobéit, il ne nous frappe pas en disant « Ah, t'es un mauvais !» Il nous dit « Mais tu désobéis. » Et ça aurait pu se passer comme ça. Donc, il faut que t'obéisses pour que les choses elles se passent comme moi, je le veux. Alors, le Seigneur, il est probablement quelqu'un d'autre, un chrétien plus obéissant derrière, qui l'accompagnait, cette dame. Je vais me rassurer comme ça. Le Saint-Esprit, il ne peut pas être gentil avec notre ancienne nature. Il ne peut pas dire, oui, on va t'aligner tout doucement sur ce que le Seigneur y veut, je vais te transformer petit à petit, tu vas voir, ça va bien se passer. Le Saint-Esprit, il doit tuer notre ancienne nature en nous. Il doit s'en débarrasser complètement, en fait. Parce qu'elle a des désirs opposés à ceux de l'Esprit. Ils ne peuvent pas cohabiter, il ne peut pas faire du rafistolage et dire, voilà, tout doucement, tu vas voir. Non, il doit nous transformer complètement. La suite de Jean 5, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ça aussi c'est bizarre, hein, quand même. Il dit que des trucs bizarres. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Alors c'est justement à ça que fait référence Jean 8 en fait, hein, quand les pharisiens disent « Ah, tu rends témoignage de toi-même ». Parce que Jésus, il leur dit, voilà, si c'était que moi qui rendais témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Alors c'est quoi ce « mon témoignage n'est pas vrai » Mais tiens, c'est bizarre ça. Quand c'est comme ça, le réflexe, c'est d'aller voir les autres traductions. On peut aller voir le mot grec et tout, hein, mais c'est des fois un peu plus compliqué à comprendre. Mais juste d'autres traductions, ça nous explique le Voilà, les significations du mot, comment ça a été vu par d'autres, et des fois ça nous montre parce que un mot il peut avoir un tas de significations en fait. Donc quand on va avoir d'autres traductions, pardon, je vais y arriver, ça dit mon témoignage n'est pas. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Alors c'est Martin et Osterwald qui traduisent mon témoignage n'est pas digne de foi. Et la Jérusalem, elle dit, mon témoignage n'est pas valable. Ça ne veut pas dire qu'il dit des mensonges, en fait, Jésus, quand il dit ça. Il ne dit pas, mon témoignage n'est pas vrai. Voilà, si je parle, c'est faux. Mais il dit, ce n'est pas valable à vos yeux, en fait. Ce n'est pas digne de confiance, ce n'est pas digne de foi. Pourquoi? Parce que dans la loi, c'est écrit qu'il faut plusieurs témoins. Et c'est de ça qu'il parle Jésus. Dans Deutéronome 15, c'est la version seconde en haut, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Je pense que c'est à ça que fait référence Jésus, en fait. Et il dit, voilà, s'il n'y avait que moi, mais en fait, on est plusieurs à rendre témoignage. Et comme vous voyez dans votre loi qu'il faut toujours plusieurs personnes pour accuser quelqu'un ou pour le juger coupable, eh bien, je vous apporte plusieurs témoignages. Comme ça, vous avez ce qu'il faut pour croire selon votre loi. Et vous voyez que dans la version Osterwald, il dit, un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelques péchés qu'on ait commis. Sur la parole de deux ou de trois témoins, une chose sera valable. Vous voyez bien que ce n'est pas une question de vrai ou pas vrai, c'est une question du côté valable d'un point de vue judiciaire, en fait, quasiment. Hein. Et Osterwald est digne de foi. Voilà. Alors, ça nous paraît logique, nous, en fait, hein, mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde de pécheurs. Mais s'il n'y avait pas le péché, il suffirait de dire une chose, et puis voilà, les gens, ils disent la vérité, et c'est réglé, il n'y a pas besoin de témoins. Mais comme on est dans un monde où les gens mentent, ben, il y a besoin de témoins, en fait, il y a besoin de deux ou de trois personnes. Et Jésus, étonnamment, se soumet à ça devant les pharisiens. Il a dit, d'accord, vous ne me croyez pas moi, mais il y en a d'autres qui rendent témoignage de moi. Et on est plusieurs à dire ces choses-là. Donc là, vous avez ce qu'il faut pour croire. Et dans Deutéronome, j'ai mis quoi là, Deutéronome 19,15, dans la suite, en fait, ça parle des faux témoins qui vont déposer un faux témoignage contre quelqu'un en disant, il a fait ci, il a fait ça. Donc je pense que c'est à ça que fait référence Jésus. Jésus lui-même, il reprend ça dans Matthieu 18. J'ai pas sauté un truc là? Alors il dit, mon témoignage n'est pas vrai, le témoignage qui rend de moi est vrai. Donc c'est la même formulation. Ouais, bon, c'est parce que je fais toutes les choses dans le désordre, je continue. Mon témoignage n'est pas vrai, n'est pas valable, n'est pas digne de foi ou ne peut suffire. C'est les traductions qu'on peut avoir quand on regarde un petit peu ce verset-là. Après, je dois avoir Matthieu, raté, digne de foi. Alors, c'était pour la version Osterwald, voilà. Matthieu 18, désolé. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous voyez qu'il y a une espèce de gradation. Hein. Tu essayes d'abord d'aller voir la personne en direct, d'expliquer les choses. Et si ça ne veut pas, prends deux ou trois témoins, en fait. Pour pas que ça reste juste entre vous deux. Faut qu'il y ait des témoins pour attester de la vérité des choses. Voilà. Bon, après, ça nous paraît logique à nous. Hein. Quand il y a un procès, qu'est-ce qu'on fait? On appelle des témoins aussi, en fait. On ne se base pas. Quand il y a un procès avec juste la parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est assez compliqué à trancher, finalement. Alors, des fois, on a des éléments matériels, des preuves matérielles, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, Jésus leur dit, voilà, si j'étais seul à rendre témoignage de moi-même, vous pourriez ne pas me croire, à la rigueur. Mais je ne suis pas le seul. Alors, Jésus, il parle de Jean. Pourquoi il parle de Jean? Parce que c'est un homme. Et parce que physiquement, les pharisiens, ils l'ont devant le nez. Donc quand Jean, il parle de Jésus, les pharisiens, ils l'écoutent. Si, mais Jésus leur dit, mais il y a plus grand, en fait. Il y a plus grand comme témoin que Jean. Il y a le Père. Mais en même temps, les pharisiens, le Père, ils ne le connaissent pas. Donc ils ne peuvent pas recevoir ces témoignages. Donc Jésus, il prend Jean, il leur dit bien, mais il y a plus grand que ces témoignages-là. Mais je vous dis celui-là pour que vous croyiez, en fait, pour que vous ayez quelque chose de concret, quelque part. Ce coup-ci, c'est bon. Alors, encore une fois, on a vu la fois dernière, hein, ce qu'on voit dans l'évangile de Jean, on le retrouve dans l'épître de Jean, en fait. Parce que Jean, il était marqué par ces paroles de Jésus. Et là aussi, on voit dans 1 Jean 5, versets 6 à 13, des choses qui ressemblent à ce qu'on lit ici. Donc c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, on retrouve les trois. Après, sur l'Esprit, l'eau, le sang, c'est des fois un peu plus compliqué d'interprétation. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et si vous recevez le témoignage de Jean, le témoignage du Père, il est encore plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est les liens entre Jean et 1 Jean, ils sont formidables. Voilà, c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit qui, alors, je vous le remets juste, voilà. L'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Là aussi, quand on a lu Jean 14, 6, finalement, on sait que l'Esprit, c'est la vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Père, il est pareil que moi. Et le Saint-Esprit, c'est le même. Donc si Jésus, c'est la vérité, le Saint-Esprit, c'est la vérité. On n'est pas surpris. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et je pense que c'est pour ça que nous, on ne peut pas rendre témoignage de nous-mêmes. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, pour reprendre la formulation de Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui représente Dieu, qui rend témoignage. Et là, son témoignage, il est plus grand que le nôtre. Vous savez, nous, on essaye des fois de... Voilà, il faut que je rende témoignage de ce que le Seigneur, il fait dans ma vie. Mais du coup, on est assez acteur quand c'est comme ça. C'est moi qui vais rendre témoignage, il faut que je dise ci, il faut que je fasse ci. Et en fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui rend témoignage. C'est pas nous qui rendons témoignage directement, c'est lui, et par son expression, il montre qu'il est en nous et il rend témoignage au Fils de Dieu. Alors, c'est l'Esprit qui rend témoignage, mais finalement, le Père aussi, il rend témoignage. Ce qu'on voit, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Donc, on revient encore une fois à ces trois. On revient à Jésus, au Saint-Esprit et au Père. Ils sont trois pour rendre témoignage et pour avoir un témoignage qui est digne de foi. Celui qui croit au Fils de Dieu, je ne sais plus où c'est, je l'ai perdu. Celui qui a le Fils a la vie. Alors, celui qui a le Fils, celui qui le possède, celui qui en qui il demeure en fait. Quand il est à l'intérieur de nous, on a la vie. Et là, on revient encore une fois sur Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il est en nous, on a la vérité en nous. Et elle doit forcément s'exprimer. On revient à Jean 5. Il faut que j'arrive à terminer quand même. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir... Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous voyez comment ça se recoupe avec un Jean, hein ? Jean, il n'était pas la lumière. Il était une lampe. Juste une lampe. Alors, il a rendu témoignage, c'est vrai. Il a éclairé avec une certaine puissance. Mais le témoignage de Dieu, il est plus grand. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est la lumière. Et donc quand on a eu une lampe, ok, on voit le témoignage, mais quand il y a la lumière qui sort, bah la lampe, on ne la voit plus en fait. Le témoignage de Dieu, il est plus grand que celui des hommes. La lumière, elle est plus grande qu'une simple lampe. Alors c'est quoi le témoignage que Dieu donne ? C'est les œuvres qu'on accomplit. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui devons par nos œuvres dire voilà, « je vais faire ci, faire ça, montrer qu'il y a le Père en moi ». Non, s'il est en nous, il fera les œuvres. Il les fera naturellement. Et c'est pas à nous à chercher, à activer des choses, à faire de l'activisme quelque part. Alors, est-ce qu'on est une lumière ou est-ce qu'on est une lampe ? Juste une lampe, une petite ampoule. Je crois que souvent, on n'est que des lampes, alors qu'on devrait être des lumières. On n'est que des lampes, ça nous suffit, on est un tout petit truc qui brille, et puis bah, si on allume la lumière, on ne voit plus rien en fait. Et pour certains, on n'a pas la lumière à tous les étages, dit Philippe. On n'est que des lampes, en fait. Et on a besoin d'être dans le noir pour voir le, la petite chose qui brûle. Mais Seigneur, il veut faire de nous des lumières, en fait, pas juste des lampes. Alors, qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin? Non, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas vous êtes la lampe du monde. Vous n'êtes pas l'ampoule, la chandelle, je ne sais pas quoi du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il n'y a pas de comparaison. On met une lampe en haut d'une montagne, bah, pff, voilà. Mais là, vous êtes la lumière, ça doit se voir de partout. Comme une ville qui est en haut, on peut que la voir. Vous savez, cette image de cette ville des Incas, là, qui est tout en haut d'une montagne, là. Et il n'y a rien. Enfin, et quand vous regardez des dizaines de kilomètres à la ronde, vous voyez les ruines de cette ville-là, le Machu Picchu, un truc comme ça. Hein. On devrait être ça. On devrait nous voir des kilomètres à la ronde parce qu'on éblouit tout le monde. Les gens, ils devraient mettre des lunettes de soleil pour nous. On rigole, mais on est tellement une faible lumière. Le Seigneur, il veut qu'on soit plus que ça. Alors, c'est pas notre lumière à nous, en fait. Hein. C'est pour ça. Nous, on n'est pas capable de briller autant. En fait, on est limité. Comme une lampe, comme une ampoule, un néon, il ne peut pas briller plus que ses capacités physiques, en fait. C'est limité, c'est tout. Mais Dieu, il est la lumière. Et s'il est en nous, on revient systématiquement à ça, s'il est en nous, c'est sa lumière à lui, en fait, qui ressort de nous et qui éblouit tout le monde. Nous, on doit être transparents. Et en fait, on est tellement opaque qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui sort. Et le Seigneur, il veut plus pour nous. Et il veut plus pour nous, et c'est lié à notre connaissance de lui, en fait. Moi, je suis vraiment travaillé par ça en lisant Jean. C'est que on ne le connaît pas encore assez, on a besoin de le connaître plus, et dans ce cas-là, on dira les choses qui viennent de lui, on fera les choses qui viennent de lui, et on brillera de sa lumière à lui. Et ce ne sera pas nous, on est incapables de le faire, mais c'est lui qui le fera en nous. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle rend les choses visibles, sinon ça reste caché. Jésus, il est venu, comme la lumière dans le monde, pour mettre en œuvre, pour mettre en évidence, en fait, le péché. Il est venu éclairer les hommes, montrer, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Tant qu'on est dans le noir, on ne voit rien, en fait. Hein. Tu sais, c'est toujours cette image d'une maison. Si vous fermez toutes les lumières, vous fermez tous les volets, peut-être que c'est propre à l'intérieur. Hein. De toute façon, vous ne le voyez pas. Puis quand vous ouvrez, tout ça dedans. J'aime bien cette image de la lumière aussi, le phare. Le phare, il montre quoi? Il montre deux choses, en fait. Hein. Il montre les rochers sur lesquels le bateau il peut se fracasser, mais il montre le port aussi. Le port où on peut aller se mettre à l'abri pour ne pas se fracasser sur les rochers. La lumière, elle montre la vie et elle montre la mort. Elle montre la mort dans notre cœur, en fait. Hein. Et elle nous dit, regarde, il y a la vie. Et tu peux venir à la vie. Et je vais remplacer cette mort que tu as là par ma vie. Jean 5, versets 37 à 40. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors ça, pour les pharisiens, c'est plus dur. Hein. Il s'adresse aux pharisiens, aux juifs d'une manière générale qui étaient venus le voir et qui était en train de se disputer avec lui en disant « Ah, ton témoignage n'est pas vrai, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » Il leur dit « Mais vous n'avez jamais vu Dieu, vous ne l'avez jamais entendu. Sa parole, elle ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas en moi, en fait. » Et c'est un cercle, en fait, hein. Vous ne croyez pas en moi, et donc il ne peut pas demeurer en vous. Comme il ne demeure pas en vous, vous ne pouvez pas croire en moi non plus, en fait. On a besoin de Dieu pour briser ce cercle-là, pour venir et nous permettre de croire, d'entrer dans le cercle et après d'avoir un cercle vertueux, en fait. Vous sondez les Écritures et vous pensez avoir la vie éternelle en lui. Alors c'est vrai que je crois que c'est un danger pour nous. Parce que les Écritures, elles parlent de Dieu. Et nous, des fois, on pourrait avoir tendance à dire que les Écritures, c'est Dieu. C'est, alors, je vais dire un peu peut-être maladroitement, mais c'est la parole de Dieu. Donc voilà, c'est la parole de Dieu et puis on peut presque idolâtrer les Écritures. Et dire, voilà, ça c'est mon Dieu en fait. Mais mon Dieu, c'est pas les Écritures. Mon Écriture, c'est juste un texte. Bien sûr, c'est ultra important pour nous. C'est la seule trace écrite qu'on ait de sa parole. Et on croit que les textes originaux, ils ont été inspirés de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Et il ne faut pas qu'on se trompe, en fait, hein, en disant, voilà, l'objectif, c'est la Bible. Non, Jésus dit lui-même, les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Si vous lisez les Écritures, c'est pour avoir un témoignage de moi. C'est pour lire de moi et apprendre de moi. Les Écritures, ce n'est pas la vie. C'est Jésus, la vie. Il est aussi la parole, le Verbe incarné. Mais les Écritures qu'on a, notre texte, avec toute l'importance qu'on peut l'avoir, hein, on prêche dessus tous les dimanches, on le lit tous les jours, voilà. Hein, j'en diminue pas l'importance, Mais ça n'est pas Dieu, en fait. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Elles n'ont pas la vie en elles-mêmes, en fait. Elles nous amènent à Dieu qui, lui, nous donne la vie. Et quand on lit les Écritures, moi, je vous répète encore une fois, mais quand on lit Jean, alors c'est valable partout ailleurs, mais Jean, c'est tellement encore plus fort. On voit comment il a connu Dieu, et il a écrit plus tard, donc il y a ce recul, en fait. Hein, il a grandi avec Dieu quand il a écrit. Et c'est passionnant de voir ce qu'il dit sur Jésus. Quand on lit ça, tout ce qu'il dit sur la vérité, sur la lumière, sur la vie, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs, en fait. Et il faut lire la parole pour que ça nous inonde, en fait. Et on se nourrit de ça, on ne se nourrit pas des Écritures en elles-mêmes, quelque part, mais de Dieu que ça nous fait ressortir. On se nourrit de la présence de Dieu quand on les lit. Voilà, lisons pas les Écritures pour gagner de la connaissance, pour gagner de la sagesse, ou je ne sais pas trop quoi, pour être un bon chrétien. Si on le lit juste parce que je suis chrétien, donc il faut que je le lise. Non, mais non, on se trompe de cible là. On le lit pour mieux connaître Jésus. L'objectif, c'est de le connaître. Je vais m'arrêter là. je veux juste vous donner le goût de lire Jean et de le lire. Moi, ça me passionne. Je pourrais ne pas m'arrêter. Je crois que je vais vous faire du Jean pendant des mois et des mois, ça continue. Mais voilà, c'est passionnant de voir comment il est Jésus. Voir sa manière de faire. Je veux juste vous rappeler ces petites règles. Alors, faut dire pareil, faut pas se dire c'est des règles, sinon on tombe dans une religion. Hein. Mais ces points qu'on a vus ensemble, savoir qu'on peut rien faire de nous-mêmes. Il faut en arriver là pour laisser à Dieu la place et que lui fasse les choses. C'est vraiment un point super important. Je peux rien faire de moi-même. Et je suis dans la vérité si je cherche pas ma volonté, mais celle du Père. On peut laisser deux petites règles sur Jean 5, c'est ça en fait. Hein. Pour rendre témoignage à la vérité, il faut rien faire de nous-mêmes et il faut ne pas chercher notre volonté à nous. Alors c'est compliqué. Je reviens toujours à ce témoignage de Rhys Owens, il m'a marqué aussi. Le moi, il ne peut pas déposer les armes comme ça. Il ne peut pas abdiquer. Cela, ce qu'on voit, c'est ça en fait. Hein. On donne les clés complètes de notre vie au Seigneur. On dit, Seigneur, vas-y. Et moi, je ne fais rien d'autre que ce que toi, tu veux que je dise et que tu veux que je fasse. Et de nous-mêmes, on n'y arrive pas, en fait. Et il n'y a que lui qui peut le faire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Donc je veux nous encourager à retourner au Saint-Esprit et dire, Seigneur, fais-le dans ma vie, tout ça. Je veux le vivre, je ne veux pas juste le lire, m'émerveiller en le lisant, et puis, voilà, le lendemain, je me réveille et c'est parti. Je veux vivre ça tout le temps, parce que c'est ta présence que je veux vivre tous les jours. Il veut faire des lumières, des phares dans la nuit. Alors, même un phare, c'est presque pas assez. Hein. Il veut faire des lumières, des soleils. Dans la nuit. Alors, c'est pas qu'on va devenir brillant, c'est qu'on va devenir transparent. Il y a encore du chemin, mais c'est pas grave, on est sur la voie. Voilà, je veux nous encourager à devenir complètement transparent et à laisser la vérité du Seigneur apparaître aux yeux du monde. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, elle est merveilleuse. Et Seigneur, c'est tellement une bénédiction de pouvoir lire cet évangile de Jean, d'avoir juste un aperçu, de gratter la surface de ce que tu veux nous montrer. Et Seigneur, voulons ne pas idolâtrer les Écritures, mais juste les lire pour te connaître, Seigneur. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est te connaître toujours plus. Et Seigneur, au plus on lit dans Jean, au plus on lit des témoignages d'hommes de Dieu, au plus on se rend compte qu'on a encore du chemin à faire pour te connaître mieux. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu mettes ce désir, cette flamme dans le cœur de te connaître, de te chercher sans relâche, Seigneur, jusqu'à ce que tu te révèles, Seigneur, d'une manière encore plus grande que ce qu'on connaît. Seigneur, nous ne voulons pas être nous ne voulons pas du tout être des gens religieux, être des bons chrétiens qui font ci, qui font ça. Nous voulons te connaître et te ressembler. Seigneur, fais de nous des lumières, je te prie. Amen. Et du coup, c'est moi qui clôture.
Ah, il est là.